Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien et particulièrement aujourd'hui, il est très motivé, il a cette mission en tête, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. D'ailleurs il fait très froid, vous avez dû le remarquer. Et pour les auditeurs qui seraient en voiture, attention, si vous mettez le siège chauffant, c'est un facteur de risque d'hémorroïdes.
Donc ça veut dire que ça démarre bien cette émission.
Mais on a décidé de vous chouchouter, mais c'est un vrai
c'est pratique,
truc. Hein.
Ouais, c'est
moi-même j'ai mis le siège chauffant. Je vous dis, je suis un peu inconfortable, et donc bon, je voulais quand même faire un peu de prévention pour débuter l'émission.
J'adore cette introduction, Jimmy. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission consacrée à la santé mentale des jeunes. Toute la semaine, votre radio Europe 1 et ses équipes se mobilisent pour aider ceux qui construisent le monde de demain. Et donc cet après-midi, dans son rendez-vous, nous allons tenter de décrypter la détresse psychologique dans laquelle se trouvent certains adolescents ou jeunes adultes, et surtout avec notre invitée, la psychologue Stéphanie Aurin-Pellissolo, nous allons essayer d'apporter des conseils pratiques pour dépister les comportements vraiment inquiétants, comment savoir si l'état mental d'un jeune nécessite une consultation ou trouver justement ce soutien psychologique, nous ferons le point. Ensuite, nous ferons appel à quelqu'un qui nous fait toujours du bien quand il vient dans ce studio, c'est Léonard Anthony, praticien en hypnose. Il va nous proposer des astuces, des exercices pratiques pour aider ceux qui le souhaitent à sortir un peu de la déprime, voire de la fatigue morale qui nous habite à tous en ce moment. Enfin, vers 15h50, nous retrouvons Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle se penchera sur la libido des jeunes, évidemment. Comment faire à l'heure du Covid, où l'on ne se rencontre plus et où les interactions sociales sont limitées.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir cette émission consacrée à la santé mentale des jeunes, nous accueillons en studio avec nous Stéphanie Aurin-Pellissolo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et avec vous, on va s'intéresser à donc ce qui se passe dans la tête de notre jeunesse. On va proposer bien sûr des solutions, du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. On va y venir. Mais pour démarrer, on va d'abord écouter le témoignage d'Enola. Elle a 21 ans. Elle est étudiante dans le sud de la France. On l'écoute.
On n'est que sur notre PC, que sur notre téléphone et on voit personne d'autre. On attend qu'une chose, c'est de pouvoir retourner en cours et pouvoir avoir le côté social, pouvoir retrouver des gens, parler. Je suis très très fatiguée de la situation. Peut-être pas au point de pleurer une fois par jour, mais tous les deux jours, en tout cas, c'est sûr. Je pleure parce que je sais plus quoi faire, je sais plus vers quoi me diriger, je sais pas si je dois abandonner les études, je sais pas si je dois essayer de faire autre chose. Je suis perdue, clairement, c'est le terme, je suis perdue, je sais pas quoi faire. J'aimerais pas utiliser le mot burn-out parce que je me dis qu'il y a encore moyen que j'essaye de m'en sortir. Mais mentalement, c'est très compliqué. Et ça, je me dis, je peux en parler qu'avec mes amis, parce que mes amis de la fac, en l'occurrence, parce qu'il n'y a que ces personnes-là qui peuvent comprendre la situation dans laquelle je suis. Et quand on en parle avec des personnes extérieures, que ce soit des adultes qui ont un travail, etc., bah, ils ne comprennent pas forcément ce que nous, on vit.
C'était donc Enola au micro de Valentin Piovesan. Alors Stéphanie Pellissolo, dans ce témoignage, je crois que bon, il n'y a pas besoin d'être psy pour entendre qu'Enola, elle est déjà en grande détresse et qu'elle est loin finalement d'être un cas isolé. On en a entendu beaucoup des témoignages de cet ordre-là cette semaine. On a des chiffres hein, d'ailleurs très alarmants. La Fondation Fondamentale a publié une enquête Ipsos qui révèle que 40% des 18-24 ans présentent un trouble anxieux généralisé. Est-ce que c'est ça qu'on vient d'entendre ?
Oui, on pourrait même presque parler pour elle de dépression. Dans cette enquête, on montre aussi qu'il y a 20% des jeunes qui sont déprimés. Et elle présente aussi des symptômes de la dépression avec une perte d'envie, perte de motivation, perte d'espoir, des pleurs qui peuvent être quand même assez réguliers. Donc là, on rentre vraiment plus dans la dépression que dans le trouble anxiété généralisé.
Ça fait quelques années que j'exerce et j'ai jamais vu autant de jeunes souffrir autant. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, une période un peu inédite ?
Ah oui, là, on est vraiment complètement surbookés dans les cabinets de psychothérapie. On ne sait plus comment faire, en fait. Hein. Les gens nous appellent en détresse importante, et des jeunes aussi, avec des parents, surtout, ce sont les parents qui nous appellent pour leurs enfants, et ne savent plus quoi faire parce qu'il n'y a plus d'endroit où on peut les accueillir à l'heure actuelle.
Cette anxiété généralisée qui touche donc pas mal de jeunes, est-ce qu'on peut dire, alors de ce que vous voyez en tout cas dans votre patientèle, on va dire, elle n'épargne personne, je veux dire, tous les jeunes de toutes les classes sociales peuvent être concernés ?
Oui, parce que là, on est dans une situation qui est assez inédite, qui entraîne finalement un espèce de stress chronique. Et en fait, le stress chronique va se transformer petit à petit en trouble anxiété généralisée, donc avec une inquiétude permanente pour l'avenir, pour sa santé, pour la santé de ses proches, au niveau financier aussi. Enfin, il y a des inquiétudes qui sont vraiment très importantes. Et petit à petit, en fait, cette anxiété généralisée peut entraîner une dépression. Donc, en fait, on a un effet ricochet qui peut mener vers des troubles beaucoup plus graves.
Mais justement, ces troubles anxieux, normalement, on a des moyens un peu de les décharger avec le sport, le fait de voir ses amis, la faculté, de faire de la fête. Sauf que bah, tout ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça va contribuer à aggraver ce stress qu'ils peuvent subir.
Exactement. En fait, là, ils sont privés de toutes les ressources que l'on peut mettre en place justement pour aller bien. Et chez les jeunes, on sait l'importance du lien social avec les autres et de toutes ces activités comme les sorties, les fêtes, partager des concerts, des théâtres, dessiner. Et là, aujourd'hui, effectivement, ils, ne se retrouvent sans, ils se retrouvent vraiment sans ces ressources.
Est-ce que Stéphanie, vous parleriez déjà d'une épidémie, certains psychiatres notamment l'ont dit sur cette antenne ou d'autres, d'une épidémie de dépression, de déprime des jeunes? Clairement, on y est déjà ou c'est ce qui est à craindre dans les mois à venir peut-être?
Alors, on y est déjà et puis ça ne va pas aller en s'améliorant si la situation, effectivement, n'évolue pas, ne change pas et surtout qu'il y a peu, effectivement, de prise en charge pour ces jeunes étudiants.
Est-ce que ce stress, cette anxiété généralisée sur le moyen-long terme, eh ben, va finir par avoir un impact sur leur santé physique? Je ne sais pas, est-ce que vous avez constaté des gens avec des troubles du sommeil, des troubles alimentaires? Est-ce que vous avez vraiment vu des choses derrière, au-delà du côté psychique?
Oui, alors on a des problèmes de désynchronisation et au niveau du cycle veille-sommeil. Ils n'ont plus de rythme normal, donc ils se décalent énormément avec des gros troubles du sommeil. On a beaucoup de troubles du comportement alimentaire aussi, et plutôt du côté de la boulimie.
Effectivement, des gamins qui font des crises d'hyperphagie,
ouais.
qui mangent tout et n'importe quoi.
Ils n'ont plus de contact au niveau affectif, donc ils se font plaisir par la nourriture. D'autres, un peu plus graves, vont aller se nourrir avec des substances illicites ou de l'alcool.
Donc ils font mal du mal à leur corps, au-delà de leur santé mentale qui est en danger. Ouais.
Exactement. Et d'autres se plongent dans les écrans, dans une addiction et aux écrans pour oublier finalement ce qui se passe à l'heure actuelle.
Alors il y a ceux qui sont, ils sont très nombreux, hein, qui souffrent déjà au moment où on se parle. Et puis il y a ceux qui savent qu'ils vont finir par craquer. Selon la même enquête dont on parlait tout à l'heure, l'enquête fondamentale Ipsos, 2 jeunes sur 3 estiment que la crise actuelle va avoir des conséquences. Donc c'est la seule façon finalement sur laquelle ils arrivent à se projeter sur leur propre santé mentale. Ils savent qu'ils vont craquer. C'est effrayant de se dire, bon, je sais que moi... ça va disjoncter à un moment donné, quoi.
Oui, oui, c'est très très effrayant et c'est là où il faut effectivement qu'on intervienne maintenant.
Est-ce qu'ils, sauf qu'ils vont craquer, mais dans combien de temps en fait? Parce que là, pour l'instant, on n'a pas de perspective. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à tenir jusqu'à la campagne de vaccination? Parce que c'est un peu l'espoir qu'on a, qu'on puisse avoir, c'est de se dire en mai ça va s'améliorer, mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir février, mars, avril dans ces conditions?
Là, je pense que le second semestre va être très très dur. Franchement, enfin, moi, je suis assez pessimiste par rapport à ça.
Il se passe quelque chose concrètement dans leur cerveau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a de la chimie dans la tête, hein, c'est pas juste je vais mal, j'ai du blues, il y a des choses qui se passent au niveau biochimique dans le cerveau. Il se passe quoi dans le cerveau des jeunes qui sont tous déprimés comme ça?
Alors moi je suis pas une grande spécialiste au niveau neuro et je pense je préfère laisser la parole au docteur Jimmy Mohamed par rapport à ça et au niveau de la chimie. Mais là ce qui va se passer, c'est effectivement ils sont confrontés en fait à de l'incertitude. Il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, les gens, effectivement, perdent leur emploi. Ils n'ont plus de stage. Ils ne se voient plus ensemble. Les examens sont remaniés. En fait, il y a une perte de sens qui est très importante et qui va entraîner sûrement des modifications au niveau biochimique.
On y reviendra. Merci Stéphanie. On va poursuivre cet entretien dans un court instant. Vous restez bien avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors aujourd'hui, on vous propose cette émission solidaire. On s'intéresse avec notre invitée, la psychologue Stéphanie Aurin-Pellissolo, à la santé mentale des jeunes, tout particulièrement. Depuis un an, elle s'est fortement détériorée. Parfois même, on en arrive à des situations catastrophiques et c'est le cas partout en France. Pour vous donner une idée, comprendre jusqu'où cela peut aller, je vous propose d'écouter le docteur Julie Rolling, chef du service, chef de clinique en pédopsychiatrie au CHU de Strasbourg.
Par exemple, certaines tentatives de suicide très graves, comme les tentatives par pendaison, habituellement on en a quelques-unes par an, et là on est déjà, depuis le début de l'année, à 4 tentatives de suicide de ce type. Samedi j'étais d'astreinte, j'ai pu voir une adolescente qui était à son 4e passage à l'acte suicidaire. Habituellement, cette patiente aurait été hospitalisée dans notre unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Là, il n'y avait pas de place. Donc la deuxième possibilité, c'est le hospitalisés dans un des services de pédiatrie qu'on appelle les grands enfants. Là encore, du fait que la majorité de leur lit était occupée par nos patients en attente, eh bien, finalement, on lui a trouvé une place dans un lit de chirurgie en pédiatrie. C'était, je dirais, la solution la moins catastrophique.
C'était le docteur Julie Rolling au micro de nos correspondants dans l'Est, Arthur Mbaché, Stéphanie Aurin-Pellissolo. Ce qui se passe en pédopsychiatrie dans l'Est, on peut dire que c'est partout pareil. Je veux dire, en Ile-de-France, par exemple, on est dans la même situation, ça déborde de partout.
Oui, c'est la même situation. Il y a deux fois plus de suicides que l'an dernier à la même période.
C'est des jeunes, hein, en plus.
Enfin, qu'en 2019, ouais. Plutôt, ce sont des jeunes. Et il y a 50% de plus d'hospitalisations qu'en 2019.
Alors, vous travaillez dans un cabinet avec d'autres psychologues. Alors, vous nous avez dit que vous étiez saturé, mais à quel point vous êtes saturé ? Vos rendez-vous sont pleins du matin au soir, pendant combien de temps ? Est-ce que vous arrivez à trouver malgré tout des créneaux ? Parce que je suppose que des urgences, bah, c'est comme en médecine classique, il doit toujours en avoir. Est-ce que vous surbookez ? Comment vous faites ?
Vous êtes 12 psychologues, je crois, dans le cabinet où vous travaillez.
On est 12 psychologues dans ce cabinet. Et d'habitude, on arrive justement à orienter vers des collègues lorsqu'on a des patients supplémentaires. Là, on est tous surchargés. Moi, j'ai à peu près 5 à 6 demandes, voire un peu plus par jour. Que ce soit des demandes par téléphone, par mail, pour des consultations, des appels de personnes de tous âges. Hein, ça va des enfants jusqu'aux personnes âgées. Et à l'heure actuelle, effectivement, on ne peut pas, nous aussi, être en surbooking non plus, qu'il faut qu'on fasse aussi attention à nous.
Mais parce que si les psys craquent, là, pour le coup, ça ne va vraiment pas tenir. Quoi,
voilà, hein, donc ça, c'est important. Donc moi, je consulte, par exemple, 4 jours par semaine, mais avec des horaires qui sont assez importants. Et effectivement, je garde quelques créneaux et en urgence. Généralement, je les propose en visio plutôt qu'en présentiel, puisqu'en fait, je les fais sur des jours où je suis en congé chez moi.
Voilà. Parmi tous les patients en détresse que vous recevez, que vous voyez en visio, vous voyez vraiment qu'il y a une explosion des demandes d'aide des jeunes, ou pas d'ailleurs. Quels sont leurs principaux motifs de consultation ? Pourquoi ils vous appellent ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ?
Là, ils viennent parce qu'ils sont vraiment dans la perte de sens. Et ils s'inquiètent en fait pour eux. Ils s'inquiètent pour leur propre santé. Et ils se disent, mais...
Vous avez un cas récemment qui vous revient en tête d'un patient que vous avez vu dans les jours précédents ?
Oui, il y a une jeune notamment qui s'est déscolarisée. En fait, elle allait un jour sur deux dans son lycée. Et elle n'était pas dans le groupe de ses amis. Et le fait de ne pas être dans le groupe de ses amis a fait qu'elle a perdu la motivation. Et donc, qu'elle a fait un refus scolaire, c'est-à-dire elle ne voulait plus aller à l'école et elle a commencé à avoir des troubles du sommeil et à ne plus travailler. Donc, perte de motivation totale.
Dépression, clairement.
Voilà,
voilà,
et elle allait vraiment vers la dépression. Et donc là, j'ai demandé effectivement à la maman qu'elle voit avec la direction s'il pouvait s'arranger pour qu'elle soit dans le groupe de ses amis. Elle ne les voit déjà pas en dehors de ses moments de classe. Mais que là, il était important, effectivement, que sur cette moitié de classe, elle puisse être avec ses amis. Quoi.
Et en plus de ça, ils ont des cours maintenant à distance, notamment sur Zoom. Alors moi, j'ai eu le malheur de faire ça cette année pendant une courte période. C'était un enfer. Et je me dis, si j'avais été étudiant à l'époque en médecine, j'aurais foiré mes études de médecine.
C'est vrai,
à quel point Zoom, c'est difficile, on dit aux étudiants...
Pour vous, un adulte hein, qui avait une famille, en plus, le soir, en rentrant à la maison...
Même pour le jeune qui est tranquille dans sa chambre, c'est
travailler,
pénible.
C'est impossible.
Les études, les professeurs, ils ne sont pas formés pour faire ça. Ils sont parfois chiants, il faut dire ce qui est. C'est difficile, on n'arrive pas à se concentrer, on a du mal à être proche. Donc on se rend compte que ça aggrave et ça rajoute de la souffrance et peut-être de la démotivation en plus. Et ça aboutit peut-être à la déscolarisation.
Oui, surtout que nous, avec Zoom, on a la visio, on a le visuel, mais eux fonctionnent sur des logiciels qui sont propres à l'éducation nationale où ils n'ont pas forcément le prof en face d'eux. Donc ils ne voient personne.
Il y a des profs qui ne veulent pas être filmés.
Ils sont juste face à un écran avec les diapos. C'est juste une horreur. Donc en fait, les élèves, ce qu'ils font, ils décrochent. Ils éteignent et puis ils jouent à côté aux jeux vidéo.
Parlons un petit peu des parents qui nous écoutent peut-être. On est nombreux à s'inquiéter pour nos jeunes. Et à partir de quand il faut se dire, tiens, mon ado ou mon fils qui est étudiant, peut-être même dans une autre ville, hein, il peut vivre déjà tout seul, il doit peut-être voir quelqu'un, consulter. Quels sont les signes qui peuvent alerter les proches de ceux qui s'inquiètent pour un jeune, justement ?
Alors, quand on vit avec le jeune, il faut être attentif à son rythme au niveau du sommeil. Si on voit qu'il commence à se décaler, attention. On essaye de reprendre ça un petit peu avec lui et voir ce qui se passe pour lui.
Ça peut être un signe de dépression.
Ça peut être un signe. Ça peut être un signe. Le fait d'avoir ses notes aussi. Hein, penser effectivement à regarder un peu ses notes pour voir ce qu'il en est au niveau du suivi scolaire qui devient de plus en plus difficile. Et je vous disais tout à l'heure, donc je vous donnais un exemple d'une jeune qui se démotivait. Et donc, on a cette démotivation à l'heure actuelle. Après, il y a les changements brusques d'humeur. Où il peut passer
bon,
du
les
rire
ados,
au larme,
ça peut être un peu classique, mais c'est quand c'est plus souvent. Quoi.
Voilà, ouais. C'est quand c'est un peu plus souvent. Ouais. Ou alors le mutisme aussi. Hein, il se met effectivement à être très, très isolé, à passer vraiment beaucoup de temps dans sa chambre. Il descend 5 minutes pour manger.
Il remonte.
Il remonte immédiatement, ouais. Sans vraiment parler, échanger à table. À ce moment-là, effectivement, on peut commencer à s'inquiéter.
Est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on met les pieds dans le plat en disant est-ce que tu as des idées noires, est-ce que tu as des envies de mourir, de suicide, ou est-ce qu'il ne faut pas utiliser ce genre de mots, il faut prendre des périphrases pour savoir à quel point l'adolescent peut souffrir ?
Non, je pense qu'il faut aborder les choses assez directement avec eux, c'est dire on traverse une période difficile. Même nous, les adultes, on en a marre. Et puis, on commence un peu à se lasser, effectivement, de cette situation. Et toi, comment est-ce que tu vis ça ? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des idées noires, de perdre l'espoir par rapport à l'avenir, par rapport à tes études, ce qui serait assez normal vu la situation dans laquelle on est. En fait, c'est normaliser ce genre d'idées qui peuvent, et que l'on peut tous avoir pour finalement rendre la parole accessible à l'enfant. Si on commence à s'inquiéter en disant « bon, alors peut-être, mais que... » Si l'enfant voit que l'on a des craintes par rapport à ça, c'est là où il peut se refermer pour protéger en fait le parent.
Merci Stéphanie Pellussolo. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, pour cette émission consacrée à la santé mentale de nos jeunes, santé mentale extrêmement fragilisée. Depuis un an, notre invité, c'est vous, Stéphanie Aurin-Pellissolo. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Et à présent, on va passer vraiment aux solutions très concrètes pour aider les ados, les jeunes adultes qui souffrent le plus en ce moment. Quand on est dans cet état de déprime, voire même de dépression, parce que vous avez dit qu'il y a de nombreux jeunes qui sont dans cet état-là. Ce qui compte beaucoup, c'est de pouvoir en parler, de cette détresse. Alors, il y a vraiment beaucoup de cas où finalement, simplement, une oreille attentive peut déjà aider à relever un petit peu la tête.
Oui.
On n'a pas besoin d'antidépresseurs ou de choses comme ça. Hein,
voilà, il y a des lignes d'écoute aussi qui sont suffisantes pour certains étudiants. Hein. Ils n'ont pas besoin, effectivement, d'aller plus loin. Rien que le fait de partager, finalement, va les soulager. Et pour d'autres, il faudra effectivement avoir un recours à des professionnels de santé mentale pour...
Et est-ce que dans une pathologie psychiatrique comme la dépression, l'angoisse, le surmenage, le stress, enfin tout ce que peuvent vivre les jeunes, plus tôt on agit, mieux c'est ? Est-ce que c'est comme dans une maladie classique, hein, quand vous avez une pathologie, mieux c'est pris en charge tôt et moins on évite de traîner ça ? Donc ne pas attendre que les symptômes s'installent très longtemps, peut-être les premiers signes, aller faire quelque chose ?
Oui, c'est éviter que les symptômes précurseurs s'enquistent. Et généralement, une période de 1 semaine à 15 jours où on a des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, changement de l'humeur, nécessite une consultation.
Est-ce que le généraliste peut déjà être un premier oreille, je veux dire, puisqu'on se dit, bon, santé mentale, c'est direction le psy, le psychologue, mais finalement, le médecin traitant aussi, ou le médecin de famille qui connaît bien l'enfant, ça peut être déjà une première oreille attentive pour ce genre de troubles.
Oui, il y a beaucoup de patients aussi qui nous arrivent justement par leur médecin généraliste, qui voit effectivement et qui connaît bien l'enfant et donc qui va pouvoir l'orienter assez rapidement vers un professionnel.
Alors vous avez lancé lors de la première vague justement un dispositif d'écoute qui s'appelle Covid Écoute, une solution qui peut s'adresser justement à ces jeunes en souffrance. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette plateforme Covid Écoute ?
Alors la plateforme est avant tout un site internet. Sur ce site internet, il y a deux solutions. On peut soit consulter des guides pour s'aider soi-même avec des programmes de méditation en fonction de ce dont on souffre. Donc, si on est anxieux, il y a un petit programme. Si on a des problèmes avec les addictions, on a un petit programme aussi. Ou alors, si vraiment on est beaucoup plus en souffrance, on peut aussi consulter un professionnel de santé mentale. Donc, il y a un annuaire avec des personnes, des professionnels qui font des consultations gratuites. Pour les personnes qui en ont besoin.
Comment ça fonctionne très concrètement ? On se connecte sur le site et puis pour la prise de rendez-vous, je crois qu'il y a un petit questionnaire à remplir, vous orienter un petit peu et ensuite, j'imagine, hein, imaginons, je prends rendez-vous avec un psychiatre, admettons. Si j'ai des idées suicidaires, j'imagine qu'il rappelle assez vite, quoi. Enfin, vous priorisez là aussi les rappels ?
Oui. Et d'ailleurs, on demande à chaque fois la raison de l'appel de la personne pour ensuite effectivement faire un tri. Parce que la demande est très importante.
Et justement, la demande, elle est variée. Est-ce que là, on parle des jeunes qui vont être stressés, mais est-ce que, vous l'avez un petit peu dit, ça peut être aussi des problèmes d'addiction avec l'alcool, par exemple? Est-ce que ça peut être simplement de l'angoisse? Et d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui s'occupe de chaque pathologie, c'est-à-dire que vous avez forcément des spécialistes au sein de la plateforme?
Alors, et le système n'est pas assez perfectionné pour orienter vers le bon spécialiste, ça, ce serait l'idéal. Mais effectivement, on a des spécialistes et puis ensuite, nous, on peut réorienter aussi vers d'autres spécialistes. Là, en plus, le gouvernement a mis en place un système où les jeunes, finalement, vont pouvoir être pris en charge, même pour ceux qui ont besoin d'un suivi au long cours.
Mais j'allais vous dire, c'est gratuit parce que c'est ça, ça a un coût de voir un psychologue, de consulter un psychiatre. Bon, c'est remboursé par l'assurance maladie, mais si quelqu'un a besoin que vous avez, parce que vous participez à Covid Écoute, par exemple, mais c'est gratuit, 3 séances, je crois. S'il y a besoin de plus, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va les orienter vers des structures plutôt publiques. Mais dans les structures publiques, le problème qu'on a, c'est l'attente. Et si c'est urgent, effectivement, on les envoie directement vers les urgences. Et on n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle. Et on est un peu... Et là, les médecins généralistes nous aident beaucoup, hein, justement. Ils sont très, très aidants. Hein, et heureusement qu'ils sont là, parce que nous, on est complètement dépassés par la situation.
Alors, il y a des plateformes de ce type, il y en a d'autres. Il y a aussi Écoute étudiant. Là aussi, on a des psychologues qui répondent aux étudiants en Île-de-France.
Oui, tout à fait. Donc, ils répondent aux étudiants avec un coût qui est pris en charge par l'Île-de-France, par la région.
Oui, parce qu'on oublie de le dire, mais souvent, l'accès aux psychologues est limité par le fait que ça coûte de l'argent. C'est normal, vous devez être payé.
En moyenne, c'est 70, 75 euros
c'est
la consultation.
La les étudiants, ils sont dans une précarité. On les voit certains faire la queue dans les chaînes dans les banques alimentaires pour essayer d'avoir à manger. Donc, aller payer un psy, bah, c'est peut-être pas.
On préfère s'acheter à manger, je pense,
bah oui,
pour certains.
Quand on peut manger et parler, bah, on préfère manger, même si on a.
Mais vous devez faire des compromis, par exemple, là-dessus. Hein,
ah oui, oui, nous, on fait aussi des compromis. C'est-à-dire qu'on essaie de voir avec les gens ce qu'il leur est possible de payer. Moi, il y a des patients que je vois à 30 euros.
C'est-à-dire voilà, que, étant donné que ce n'est pas remboursé, c'est vous qui devez diminuer vos tarifs, entre guillemets. Mais on ne devrait pas, à un moment donné, penser peut-être, et surtout dans l'urgence actuelle de la situation, à peut-être rembourser en urgence maintenant les consultations de psychologues, puisque les psychiatres sont débordés, les hôpitaux sont pleins.
Oui,
à un moment donné, il va falloir mettre les choses sur la table.
Bah, surtout qu'on paye notamment les restaurateurs qui ont fermé. C'est normal, il faut les soutenir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi soutenir les jeunes en les aidant à aller mieux psychologiquement? Donc peut-être avoir une enveloppe, subvention, donc ça peut être... Et ces jeunes, ils préfèrent, est-ce qu'ils acceptent d'être au téléphone et à distance ou ils veulent absolument venir en présentiel et ils ont besoin du contact ou ça se passe très bien, notamment à distance?
Alors, de plus en plus, ils nous demandent plutôt le contact. Ils en ont besoin.
C'est leur seule autorisation pour sortir, les pauvres. Alors, ils sont contents
de venir l'autorisation, effectivement, de sortie. Ce qu'on pourrait faire pour agir en masse, c'est finalement faire des interventions directement en groupe dans les facultés. Aujourd'hui, il y a plein de salles et d'amphi qui sont libres. Moi, je pense qu'une des solutions serait aussi cette intervention en groupe. Le partage des émotions, on a prouvé que dans les moments extrêmement difficiles, et notamment quand il y a des grosses catastrophes, est quelque chose qui est très, très aidant et qui permet effectivement aux personnes d'aller vraiment mieux.
Merci beaucoup Stéphanie Aurin-Pellissolo de nous avoir accompagnés cet après-midi avec donc, cette émission Europe 1 solidaire. Bonne continuation et merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous avec aujourd'hui un focus jusqu'à 7h sur la santé mentale, jusqu'à 16h sur la santé mentale des jeunes. Toute la semaine d'ailleurs, Europe 1 et ses équipes se mobilisent en faveur de la jeunesse et lui apportent conseils pratiques, soutien psychologique et même on facilite cette semaine la mise en relation avec les entreprises qui recrutent. Donc soyez bien à l'écoute. D'ailleurs, vous pouvez suivre, participer, commenter cette semaine spéciale sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 solidaire. Alors notre deuxième invité justement qui vient en studio aujourd'hui avec nous pour aider les jeunes à retrouver un peu de sérénité. C'est vous, Léonard Anthony, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes expert en autodéveloppement, expert dans la fatigue, vous êtes surtout praticien en hypnose et l'auteur du livre Fatigue, hein, si on apprenait vraiment à se reposer chez Flammarion. Alors Léonard, vous êtes aussi, parce que là j'ai donné beaucoup de titres, mais vous êtes aussi un papa. Vous avez des enfants jeunes ou moins jeunes justement.
C'est vrai.
Et je crois que vous le constatez déjà, vous, en tant que père, vos enfants, peut-être les plus grands d'ailleurs, enfin vous allez nous préciser, souffrent eux aussi en ce moment.
Oui, je suis dans la continuité de ce qui a été dit précédemment par... notre ami psychologue, c'est une période très difficile et plus les enfants sont grands et plus c'est complexe. C'est comme si l'innocence de l'enfance était volée d'une certaine façon et que la jeunesse qui doit s'éclater, qui doit être dehors, qui doit respirer. On a parlé de décharge tout à l'heure, Jimmy, mais aussi recharger. Parce qu'au fond, on est en relation avec la vie, avec la nature, tout ça étant complètement pris, piégé. Et il y a un truc qui est très, très dur et je dis avec beaucoup d'émotion parce que ça dépasse simplement mes propres enfants. Mais quand on écoute tout ce qui a été dit, on voit à quel point l'avenir de la jeunesse est d'une certaine façon mis sur la table. C'est-à-dire que ces jeunes se disent, mais le hashtag nos futurs, il prend vraiment un sens. Mmh. C'est plus une image, c'est pas une métaphore. Donc là-dedans, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on leur dit, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est difficile, il va falloir tenir. Il y a un espoir fort avec la vaccination. Il faut s'accrocher aux espoirs, parce que sinon, on plonge. Donc, et c'est très, très dur. Je pense notamment aux gamins qui vivent seuls dans des cités universitaires, dans une pièce de 9 mètres carrés. D'autres, je lisais un article juste avant d'arriver, qui doivent tenir avec un repas à 1 euro. Il y avait 500 000 étudiants qui sont passés. Tout ça, ce sont des données qui sont particulièrement difficiles. Et au fond, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a une résonance là-dessus à avoir et à ne pas se laisser plomber, parce que sinon, c'est foutu, c'est perdu.
Et puis, contrairement au premier confinement, là, la météo, elle n'est pas favorable, hein, c'est tout bête, mais ça peut jouer aussi sur notre humeur. Il fait froid, il fait gris, il fait nuit à 17 heures. Est-ce qu'en plus de ça, c'est un facteur de plus pour se dire on a du mal à traverser cette période?
Alors, on le sait, les études qui ont été menées, par exemple, dans les pays nordiques, ont montré qu'il y avait des taux de suicide plus élevés dans ces pays, en particulier l'hiver, parce que il n'y a pas de jour. Il y a des facteurs sur un certain nombre de paramètres, comme la vitamine D. On voit bien que ça joue. On voit que la mélatonine est essentielle. Mais derrière ça, il y a aussi un point fondamental. L'absence de lumière plombe. Et c'est vrai que vous vous rappelez, on avait eu un mois de mars comme jamais. On se disait tous, non mais pourquoi il ne fait pas beau comme ça d'habitude?
C'est vrai,
on était confinés avec un soleil incroyable. Ben là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile.
On n'est même pas confinés en réalité. Oui. Et il fait mauvais. Donc
ouais, mais Mélanie, ouais. Vous venez dire un truc qui est vachement important aussi. C'est on n'est pas confinés, mais beaucoup, beaucoup de personnes.
On a l'impression qu'on n'est jamais sorti de tout ça.
Et c'est ça. Et en fait, il y a une deuxième paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on s'auto-limite. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire de ne pas s'auto-limiter. Quand des choses sont possibles, prenez possession. Et on n'est pas dans le premier confinement. Donc, à force d'être dans cette attente molle de cette sortie, on commence à avoir des réflexes qui s'installent. On reste de plus en plus à l'intérieur, alors qu'on peut quand même sortir la journée.
Dans la queue à la boulangerie, on baisse tous la tête, alors qu'on pourrait se sourire au moins, se regarder.
Et, et alors c'est dur, regardez, on est tous avec des masques. Alors nous, on se connaît un peu, donc on connaît nos regards, on sait à quoi ressemble le visage. Moi, j'ai entendu un enfant l'autre jour qui m'a dit « Je ne sais plus pas à quoi ressemble ma maîtresse.
Ouais, »
Vous imaginez le truc quand même? C'est vachement difficile pour un môme de se dire « Je ne vois pas à quoi tu ressembles, donc je ne peux pas lire tes signaux, je ne peux pas lire le sourire. » Donc il y a des choses simples là aussi à faire.
Et en plus de ça, on a l'impression que pour les jeunes, il y a la perspective du chômage. Vous avez 3 enfants. Est-ce que vos plus grands enfants, je crois que vous avez 2 qui sont assez grands, vous parlent justement du fait de peut-être de ne pas avoir de job plus tard?
Moi, la plus grande, elle est nihiliste pratiquement sur le sujet. Et en plus, il y a un point important que je voudrais... Pardon si je prends un peu une seconde là-dessus, mais c'est un point qui est très important. C'est il y a eu ce mot qui a été employé, qui a été commerce essentiel et non essentiel. Et ça a laissé des cicatrices parmi beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, étudiants en art, en histoire, qui sont peut-être même cuisiniers, qui sont en train d'étudier à différents niveaux. Et ils se sont dit, mais moi, je ne suis pas essentiel.
Ouais.
Je suis en train de faire un truc qui ne sert pas. Donc, il y a des conséquences psychologiques qui sont lourdes et les cicatrices vont rester.
Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là qui sont concernés justement en plus par ces métiers dits, entre guillemets, non essentiels? En ce moment, bien sûr, il faut continuer à rêver parce que le rêve, c'est la jeunesse aussi, c'est ça. Comment on entretient le rêve quand on est en train d'étudier un métier qui, en ce moment, il n'est même pas autorisé?
Si vous me permettez une grossièreté, je dirais, on dit à tout le monde, va se faire foutre. C'est essentiel. Je suis essentiel. L'art et la création est essentiel. Il y a un truc qui est fondamental, c'est un jour, un astrophysicien disait, je ne sais pas quelle est la meilleure description du monde, celle de la science ou celle de la poésie. Vous enlevez la création, vous enlevez la poésie, il n'y a plus de monde. Donc c'est essentiel, vous êtes fondamental, et vous êtes même le mouvement et la source de la planète.
Et justement, du coup, ces jeunes vont avoir tendance à se réconforter sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi une bonne chose? Est-ce que d'être trop connecté, ça finalement, ça peut être aussi néfaste pour eux, de façon paradoxale?
Oui, parce qu'on le voit, c'est un déversoir et beaucoup de haine, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de régulation, donc beaucoup de choses sont faites et les informations négatives circulent beaucoup plus vite que les informations positives. On en a parlé un grand nombre de fois. Et puis, il y a une deuxième chose, si on revient à mon sujet, qui est celle de la fatigue, quand vous avez passé des heures et des heures à essayer de faire un cours sur une plateforme numérique, c'est ultra épuisant. Si vous êtes encore connecté, vous allez avoir des impacts sur votre sommeil. Vous allez avoir un impact sur votre appétit, ça joue partout. Donc, mais c'est très dur de donner des conseils. C'est vraiment dur parce que quand vous êtes seul dans votre chambre, l'écran, c'est un peu une fenêtre aussi sur le monde et c'est une façon aussi de se confier.
Et vous disiez tout à l'heure, on a aussi tendance à s'auto-censurer. En ce moment, on n'est même pas confiné, mais en réalité, on ne sait plus parce qu'on a été confiné, déconfiné, reconfiné. Enfin, on a l'impression qu'on est confiné ad vitam aeternam depuis un an. Et vous dites, arrêtez de vous auto-censurer. Et par exemple, quand c'est autorisé, puisque en ce moment, à part le couvre-feu, on a le droit de circuler dans la ville pour aller travailler, enfin pour sortir. Faites du sport, par exemple. C'est très important. Ça va vous aider à sortir de cette fatigue.
C'est essentiel parce que vous allez rencontrer la bonne fatigue. Donc, si vous êtes encore une fois dans un appartement tout petit, vous avez quand même le monde qui est ouvert en ce moment. Donc, si jamais un jour on est à nouveau confiné sévèrement, bah vous vous contraindrez. Mais pour l'instant,
allez
c'est
faire
pas
du vélo, aller courir, aller marcher.
Regardez, ouais. C'est une belle journée aujourd'hui, il y a de la neige.
Il fait froid, mais c'est beau.
Ouais, c'est, mais il y a de la neige, c'est autre chose. Il y a de la variété. C'est aussi la notion de routine qui est sous-jacente. Il faut, vous savez quelle est l'étymologie du mot routine ?
Non.
C'est petite route.
Oui, c'est
donc
mignon.
En fait, on peut prendre ces petites routes et être attentif à des millions de détails qui font que la route va changer.
Elle est déjà en train de changer grâce à vous, Léonard. On va revenir dans un court instant. Vous restez bien avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et lui aussi, il est très heureux d'être avec nous. Je le sais, je parle à votre place, Léonard Anthony.
Vous pouvez.
Voilà, mais vous êtes praticien en hypnose, un habitué de cette émission. Vous êtes spécialiste de la fatigue. Et cet après-midi, vos meilleurs conseils sont justement pour les jeunes qui nous écoutent ou même leurs proches. Alors, un autre conseil que vous donnez, c'est de miser beaucoup sur la musique. C'est prouvé. C'est l'un des meilleurs remèdes contre la déprime. Et d'ailleurs, vous avez un morceau qui vous ressource, je crois. On écoute quelques notes. Ça vous plaît, Mimi ?
C'est pas mal.
Ça vous aimez mieux ? Ouais.
C'est mieux que la chanson française à l'Eurovision, mais bon, c'est un autre débat.
Qu'est-ce qu'elle vous procure, ce morceau ? Pourquoi celui-ci en particulier ?
Mais parce que... Alors, j'aurais pu vous dire d'écouter une symphonie de Sibelius. Vous voyez, il fait très très beau, c'est, avec la neige.
Ça,
bien,
ça met la pêche un peu.
Ouais.
Hein, c'est
mais
ça.
Voilà, je trouve que le funk, c'est un truc terrible. Ça vous donne une patate, vous avez envie de vous lever, de danser, de chanter, de bouger. Et on a besoin de sourire en ce moment. Et donc, moi, je trouve que le funk, il n'y a rien de mieux pour sourire.
Moi, je trouve que c'est un bon conseil musical.
C'est pas mal. Est-ce que, parce que quand on parle de fatigue, vous êtes un spécialiste de la fatigue, on a l'impression que quand on a 20 ans, on n'a pas le droit d'être fatigué. On dit que tu es jeune, plein d'énergie, que tu vas t'en sortir, alors que finalement, bah, ils ont le droit d'être fatigués. Ils ont aussi peut-être le même niveau d'intensité que nous de fatigue. C'est parce qu'on est jeune qu'on est forcément en pleine forme en cette période.
Ben oui, parce qu'en fait, il faut distinguer encore une fois plusieurs types de fatigue. Et la fatigue morale, elle pèse sur les jeunes autant que sur nous. Et je pense que c'est très important de leur rappeler qu'ils ont le droit, parce que sinon, ils n'en parleront pas. Il faut qu'ils aient la possibilité de l'exprimer. Évidemment, ils ont le droit d'être fatigués. C'est une aberration.
C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on exclut de ça, quoi.
Ben oui, évidemment. Et surtout en ce moment. Alors, c'est sûr que quand on a la capacité de se recharger en allant dehors, de décharger, de se recharger, on sent moins la fatigue, Jimmy, que nous deux.
Et vous dites même quelque chose. Vous dites qu'ils ont une charge mentale encore supplémentaire par rapport à nous, les adultes qui travaillent, par exemple. C'est quoi, par exemple, leur charge mentale supplémentaire à ces jeunes ?
Ben, en ce moment, c'est clairement de ne plus avoir de perspective. De se dire, mais attends, l'avenir, si c'est comme ça, si ça s'installe, derrière, on nous dit, il y aura peut-être une crise économique. C'est tout sauf simple, parce que nous, les adultes, on a cette chance, d'une certaine façon, c'est d'avoir du vécu. Et vous n'avez pas de lecture du passé, vous n'avez pas de temporalité. Et on le sait, l'expérience des autres ne nous sert pas toujours. Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie d'écouter les conseils de nos parents. Donc l'expérience n'est pas évidente et on n'a pas eu le temps de faire sa propre expérience. Donc cette charge, elle vient là.
Et justement, pour y remédier, vous proposez quelque chose, notamment de dire ou faire quelques bêtises.
Ça de dire des conneries, oui, c'est ça qu'il propose, je crois.
Ouais, je propose ça cash, parce qu'en fait, moi, je le fais tout le temps, tous les jours.
C'est-à-dire
Jimmy aussi, il dit des conneries.
Là, sur l'Eurovision, c'était gratuit. Hein.
C'était justement
c'était
un moyen.
Une blague, de...
C'était une blague, c'était une blague, évidemment.
Mais oui, moi, je,
pourquoi il faut tant blaguer ? Pourquoi c'est important ? Nous, on aime bien les blagues.
Parce que, en fait, il y a deux choses. Vous voyez, en ce moment, beaucoup de gens, et en particulier les jeunes, se partagent des vidéos, des clips, des images. C'est vachement bien. Ça nous donne le sourire. Mais...
Oh, mais vous voyez, Jimmy, ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé une photo de ma fille qui se cassait la figure. Elle n'a pas eu de blessure, je précise. ça vous a fait marrer, ça vous a mis une bonne humeur.
Oui, parce que Mélanie Gomez est une mère indigne. Sa fille tombe et elle en rit, alors que moi, j'étais
c'est
très inquiet.
C'est une vidéo gag, ça, il faut partager.
Ouais, mais elle partage tout
ce qu'elle fait. Je l'ai envoyé à tous mes amis, en plus, c'est vrai.
En fait, mais ça, c'est une dimension. Ce qui est encore plus important, c'est d'être acteur de la connerie.
Ah oui.
Donc, c'est d'être un pauvre con, si vous me permettez l'expression. Et donc. N'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut, tout ce qui va vous faire marrer, etc. Je vous donne un tout petit exemple. Moi, j'ai lancé avec un ami un projet d'écriture. On a décidé d'écrire un recueil
le plus
de questions,
possible. Ouais. Non, c'est
des
pas
questions
ça.
Qui n'appellent pas de réponse. Par exemple, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure ? Tu arrives au restaurant et tu dis votre poisson, il est frais. Et on fait un recueil de toutes les questions les plus
C'est une très bonne idée, je trouve.
Non, mais c'est vrai, je l'ai demandé la dernière fois à la cantine, est-ce que le poisson est bon ? Il m'a dit, à votre avis.
Non, il est dégueulasse.
Genre, dans les notes, qu'est-ce que tu penses du Covid ? Ça, j'en ai trouvé plein.
J'adore. Alors, on va entendre un truc un peu moins drôle. C'est un témoignage, Léonard. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Merwan. Il a 27 ans, qui exprime un ras-de-bol. Vous allez l'entendre comme beaucoup d'autres. Mais lui, en plus, il est assez en colère. Écoutons-le.
C'est plutôt de la colère dans le sens où déjà, on a ce discours qui dit que nous ne sommes pas confinés. Or, le couvre-feu est pour moi, et je pense pour beaucoup de jeunes en tout cas, un confinement dans la mesure où il nous empêche de vivre notre vie telle qu'on la vit, c'est-à-dire que notre vie ne se résume pas au travail et après le travail, il ne se passe rien, ou les études ou autres. Alors évidemment, on entend les discours sur la guerre, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vécu la Grande Guerre, la guerre de 39-45, mais en général, les mêmes qui nous accusent de ne pas avoir vécu la guerre n'ont eux-mêmes pas vécu la guerre. Juste un peu de respect parce que les jeunes font des sacrifices et je fais des sacrifices alors que je ne suis pas le public cible des plus gros dégâts de l'épidémie. Et du coup, bah, juste avoir du respect. Je pense que c'est ça dans la période qui manque à l'égard de la jeunesse, c'est du respect.
Bon, Marwan, il est un petit peu en colère contre les générations au-dessus de lui, on peut le comprendre. Vous la comprenez cette colère? Je ne sais pas, d'ailleurs c'est plutôt sain, moi je trouve, d'exprimer la colère plutôt que de la ruminer.
Déjà c'est sain, c'est une bonne chose, et évidemment on peut la comprendre parce qu'elle est légitime, et c'est vrai que les donneurs de leçons devraient commencer par cesser de dire des âneries.
Il n'a pas dit comme ça, mais ce qu'il veut dire c'est qu'il en veut aux vieux.
Mais aux vieux qui ne sont pas si vieux, enfin, je veux dire, nous, aucun d'entre nous n'a connu la guerre.
Ah non, ça c'est sûr.
Donc on l'a, au pire on l'a regardé à la télé quand il y avait la guerre du Golfe. Donc, bon.
Il en a marre d'être donneur de leçons en tout cas.
Mais oui, ça ne sert à rien de donner des leçons, et ce jeune homme est en colère, et elle est légitime, et si à son âge on n'est pas en colère, quand est-ce qu'on l'est?
Est-ce que cette colère, il faut l'exprimer ou il faut la garder pour soi? Parce que souvent on essaie de...
Ça peut être un peu toxique aussi, la colère.
Oui, mais on essaie de renfreiner nos sentiments, on garde tout pour nous, mais ce qu'il faut parfois
le
dire...
Quand vous êtes en colère, on le sait en général.
Il y a un truc aujourd'hui. Hein. Mais oui, évidemment, il vaut mieux le dire et il vaut mieux l'exprimer parce que sinon vous avez un effet cocotte-minute. À un moment donné, ça pète et ça pète mal. Donc il vaut mieux absolument essayer de l'exprimer, la partager avec les gens les plus proches. En tout cas, si on peut éviter les réseaux sociaux, c'est mieux. Parce que sinon, on ne fait qu'augmenter la colère globale, et la colère globale est toxique encore plus.
Léonard, pour terminer, pour les parents qui nous écoutent, ou en tout cas les proches d'un jeune qui va mal, justement, on peut se sentir complètement démuni, justement, si son jeune, eh bien, il vit ailleurs, dans une chambre de bonne, qu'il est un peu loin, mais qu'on sent qu'il est malheureux. Comment on peut les aider, nos jeunes qui vont mal, les jeunes qui sont proches, en tout cas, alors que, bon, on ne peut pas arrêter l'épidémie, on n'a aucun moyen, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager un peu?
Alors, en complément de tout ce qui a été dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a ces numéros de téléphone pour appeler, il y a une aide psychologique, il y a le médecin traitant. Tout ça, c'est important dès qu'on sent que ça escalade. Mais la première des choses qu'on peut faire, c'est essayer de renouer un lien et un dialogue avec ses enfants, avec ses ados, avec ses jeunes adultes. Prendre le temps, c'est vraiment important. Et je sais que ce n'est pas facile parce que nous-mêmes, on a des journées chargées, compliquées. Et si vous sentez que ça ne va vraiment pas, voyez autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un, un oncle, une tante, un pote qui peut
passer
maintenir
voir,
ce lien, passer le voir, discuter, etc. Parce que on est des êtres humains. Voilà. On n'est pas des robots.
Merci.
On a besoin de contact.
Merci beaucoup Léonard de nous avoir accompagnés cet après-midi. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vos méthodes pour se sentir mieux, elles sont très efficaces, hein, je le confirme. Je rappelle votre livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer » chez Flammarion. Merci encore Léonard.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint en studio. Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été laissée sur notre répondeur. C'est la question de Martin. On l'écoute.
Alors, j'ai 23 ans, je suis célibataire. Et donc, en ce moment, tout est fermé, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, etc. Comment c'est possible de trouver l'amour durant cette période?
Alors Catherine, on comprend bien sûr le désarroi de Martin, vous le constatez vous aussi auprès de vos patients, des jeunes qui s'inquiètent car ils ne peuvent plus faire de rencontres amoureuses ou même sexuelles, c'est vraiment très compliqué en ce moment.
Alors, bien sûr que c'est compliqué puisque on est dans un monde d'interdits en ce moment dits, nommés, actés, etc. et auxquels nous devons obéir. Ceci étant, les humains sont toujours là, les rencontres se font comme elles peuvent se faire. Parce que ce qui est très intéressant, c'est d'observer que dès lors qu'il y a des interdits, non pas que l'on cherche à contourner l'interdit, mais on va voir où est-ce que, compte tenu de ce cadre, on peut ouvrir le champ des possibles.
Mais il reste la boucherie, la poissonnerie, la boulangerie, mais, je vois pas trop là. Hein,
mais c'est... en plus, surtout qu'il faut se dire que tout le monde est à la même enseigne, et étant à la même enseigne, tout le monde est en désir et en recherche de l'eau. Donc, c'est sûr que dans ces temps un peu en berne, tous ceux qui étaient plutôt dans l'anxiété de l'autre, dans le côté ours, d'hibernation, etc., trouvera le loisir au travers des interdits de justifier de son côté asocial, etc. Mais sinon, on est tous dans des envies de proximité, des envies sociales, des envies d'élan. Et donc, dès lors que ça s'ouvre un tout petit peu, on y va, si tant est qu'on est animé de cela. Alors évidemment que je crois qu'en ce moment, certains sont en situation de difficulté et de déprime, et donc la déprime, sans parler de dépression, ne fait pas bon ménage avec l'élan,
la libido et, tout ça,
et ouais. Le regard de sur l'autre, etc. Mais faisons attention, on est déjà masqué, d'avoir les yeux qui croisent les yeux des autres, ne regardons pas nos chaussures, levons un peu le nez en l'air, même si le ciel est gris.
Port de tête dégagée, voilà,
marchons fièrement, en n'oublions pas encore une fois que notre frustration rencontre des gens qui sont en même quête et qui ont leur propre frustration, et ne nous enfermons pas dans notre propre frustration avec l'idée qu'on nous empêche, que quelqu'un nous interdit notre amour.
Enfin, il y a quand même le coronavirus qui nous empêche encore pendant quelques temps, malheureusement.
Bien sûr.
Vous parlez du masque. Ça veut dire qu'on peut malgré tout trouver quelqu'un attirant avec un masque. C'est pas forcément un obstacle à la séduction, à la rencontre de l'autre.
Disons que les gens qui ont des beaux yeux sont un peu avantagés en ce moment.
C'est pas que les beaux yeux, c'est les yeux vivants. Parce que vous voyez dans les yeux de la tristesse, où vous voyez de la vie, vous voyez de la pelle, vous voyez du regard. Vous voyez que les gens sourient dans les yeux. Après, vous les vous entendez sourire dans la voix. Là, nous sommes dans des micros. Les gens ne nous voient pas nécessairement, à moins d'être sur Internet. Et donc, de fait, ils entendent bien le son de notre voix. Ils sentent bien...
On entend des sourires.
Complicité, au-delà de nos rires affirmés. Donc, c'est dans la vie, là, encore une fois, l'austérité dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'empêche nullement nos élans de vie et d'être perçus comme tels. Donc, faisons attention, c'est difficile d'être un jeune, peut-être, parce que c'est aussi difficile d'être un jeune tout court qui doit aller conquérir le monde. C'est de toute façon difficile. C'est pas parce qu'il y a plus de boîtes, de bars, etc. Ça offre des opportunités, certes, ça donne un cadre où il est logique de s'y retrouver, peut-être, mais ça veut dire qu'on est plutôt porté par la foule. Là, il faut en faire la démarche un peu plus volontaire.
Et c'est quoi vos conseils alors, au quotidien aujourd'hui? Parce que c'est vrai, je le disais tout à l'heure, à part les commerces de première nécessité, on va dire, il n'y a quand même pas trop de lieux de rencontre pour ça. C'est difficile de draguer à la caisse de la boulangerie.
Oui, mais c'est...
Parce qu'on nous met vite dehors avec les gestes barrières, il faut faire la queue à l'extérieur, on ne peut pas rester 3 heures, enfin, c'est compliqué.
Oui, bien sûr, mais sans draguer, on peut déjà se parler, sourire et avoir du plaisir, ce qui fera les échanges de téléphone. De numéros de téléphone, comme dans la vraie vie, de toute façon. Et puis, pour ceux qui sont sur des applis, puisque les jeunes sont beaucoup sur des choses en ligne, mais que ce soit l'occasion de se parler, pas simplement de chatter, mais de se parler, de s'écouter, de faire
en vidéo pour se voir pour de vrai.
Exactement, mais justement, et de se démasquer dans ce cadre-là et se donner l'opportunité après d'aller marcher pour se rencontrer, pourquoi pas, et faisons des choses un peu plus. On n'est pas obligé d'aller se mettre... Vous savez, quand on va dans une boîte de nuit où il y a un boucan du diable, une musique à tue-tête, où on n'entend même pas les mots de l'autre, les gens arrivent à se draguer alors qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Si ça se trouve, quelqu'un de complètement idiot. Là, nous avons l'opportunité d'échanger pour de vrai avec des gens, certes, avec des contournements.
On voit toujours le verre à moitié plein avec Catherine. Hein. C'est ça qui est bien.
Bah, j'espère. En tout cas, moi, je le vois à moitié plein. Voyez-le à moitié plein de grâce.
S'il vous plaît. Donc, on peut draguer, c'est autorisé. On a le droit encore.
Mais bien sûr, soyez vivants, heureux et ayez la curiosité de l'autre. Vous attirerez la curiosité sur vous.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils précieux, comme toujours. On revient demain, même heure, sur Europe 1. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël. C'est historiquement votre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, j'ai envie de chanter.
Allez-y.
Comme un avion sans aile. Pourquoi est-ce que je chante
parce
ça,
que
Stéphane?
On va parler de 3 personnalités qui ont été fauchées en plein vol. Charles Ningesser, qui avait pris l'avion Bourget pour aller à New York, il n'est jamais arrivé. Ouais, Marcel Cerdan, qui voulait rejoindre...
C'est ce qu'a dit sa femme aussi, oui.
Marcel Cerdan, qui voulait rejoindre Edith Piaf à New York, alors qu'elle lui... il voulait prendre le bateau. Il dit, non chérie, prends l'avion. Il n'est jamais arrivé.
Elle a dit triple zut.
Et vous avez choisi qui?
J'ai choisi des gens qui ont été fauchés aussi un petit peu comme ça dans la fleur de l'âge, mais heureusement pas au sens propre du terme, ils sont toujours vivants mais n'existent plus médiatiquement, heureusement. C'est le groupe Ozone qui chantait, vous savez,
oh là
sur
là, ça me dit quelque chose ça, mais j'étais jeune.
Nouma Nouma Yé, Nouma Nouma Yé, Nouma 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 Yé.
Je vous demande au nom de la Moldavie et de la Roumanie de ne pas vous moquer des grands artistes de ces contrées.
Très bien, bon bah écoutez, on va rester avec vous bien sûr, rien que pour vous entendre encore chanter Mathieu, ça vaut le coup.
Je suis chaud.
Allez, on est chaud nous aussi, on reste sur Europe 1.